Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont vous pourrez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu cette semaine vous parler des activités de plein air samedi 11 juin à Washington aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs villes de ce territoire immense, des milliers de personnes marchent pour le contrôle des armes à feu. Ces armes qui tuent plus de 20 000 personnes par an, dont plusieurs centaines shootées par des policiers. Cette information a eu les honneurs de la presse d'État, France Inter, France Info, etc. Dans le même temps, en France, des dizaines de manifestations contre le racisme et les violences policières n'ont pas fait les entrefilets. Tiens, c'était même le 10 à Alençon. La paille, la poutre, oui, il semblerait que notre poutre de violences policières ne suffise pas à nous permettre de comprendre la paille que nous voyons dans celle des voisins. Le 11 juin, c'était aussi une piqûre de rappel à propos du Rojava, cette partie du nord-est syrien qui est intégrée à la Fédération de la Syrie du Nord, région en guerre notamment contre la Turquie, qui joue le même jeu que Poutine en Ukraine et administre de fait des régions d'autres pays comme en Syrie. Des manifestations ont eu lieu dans toute l'Europe contre l'offensive annoncée de la Turquie qui négocie avec son allié russe dans la région. Russie qui a permis à Bachar el-Assad de rester en place en Syrie, mais pas dans toute la Syrie. La Fédération de la Syrie du Nord, c'est quoi ? Eh bien, c'est souvent ce qu'on réduit au Rojava, l'une de ces entités. Là-bas se joue une tentative de démocratie directe, encensée par certains, dénigrée par d'autres, et qui avait fait l'objet d'une journée de conférences et discussions en octobre 2021 au Mans, à l'initiative de l'UCL et de la CNT. À cette occasion, on avait rencontré Pierre Banse, qui a publié « La fascinante démocratie du Rojava » en 2020 aux éditions Rouge et Noir. Alors, pourquoi fascinante ?
Pour moi, le plus fascinant, c'était le système politique qu'ils mettaient en place. C'est même ma motivation qui m'a fait me pencher sur la question, puisqu'on entendait des discours différents. Certains disaient que ça y est, le municipalisme libertaire était installé au Rojava, alors que d'autres disaient tout ça, c'est des blagues, c'est le PKK qui n'a pas changé, qui dirige tout. Donc, pour comprendre, j'y suis allé voir moi-même et bien. On arrive à quelque chose qui est fascinant, oui, parce que dans leur contrat social, on va dire que c'est leur constitution, on pourrait discuter sur la nature juridique réelle de ce document, mais enfin leur constitution, ils disent à la fois qu'ils sont un pur système communaliste et un vrai système parlementaire.
Ouais, je sais, c'est dur, on reste vraiment sur sa fin là, bah ouais, c'est fait exprès. Le livre est dans toutes les bonnes librairies, non, j'ai pas parlé de Cultura ni de la FNAC, j'ai dit librairie, pas vendeur de livres, ou alors c'est trouvable sur le site des éditions Rouge et Noir, édition au pluriel noir et rouge.com. Édition noir et rouge.com, je les appelle toujours rouge et noir. On aurait pu vous parler des activités de plein air locales, comme la manifestation d'une centaine d'agents médicaux et médico-sociaux venus de toute la Sarthe et employés d'ailleurs par le département de la Sarthe, qui se sont retrouvés devant le conseil départemental de la Sarthe, mais c'était au Mans, le mardi 14 juin 2022. Ils veulent aussi toucher l'aumône lâchée par les libéraux qui nous gouvernent, appelée la prime Ségur. Mais comme ils ne sont pas des soignants au sens strict, ils n'y ont pas droit. Bon, c'est quand même 183 balles nettes par mois, c'est-à-dire pour ces métiers, en moyenne, une revalorisation de 12%. Ils ont adressé leur demande au président du conseil départemental, dont on ne citera pas le nom pour ne pas faire de publicité à un parti en déroute. La délégation reçue est revenue bredouille, alors les manifestants ont annoncé leur retour pour le 24 juin. Si le temps le permet, bien sûr. Alors là, c'est pas une histoire de pluie, non, c'est plutôt qu'avec le dérèglement climatique, on n'est pas à l'abri d'une chaleur étouffante au sens propre. On aurait pu vous parler des valeurs du paraître et de la compétition qui se sont emparées du Mans et de ses alentours ces dernières semaines, la catastrophe annoncée a bien eu lieu. Vendredi 10 juin, des milliers de personnes agglutinées derrière des barrières pleines de pubs ont applaudi des voitures et des motos pleines de pubs et contenant des pilotes en combinaison pleines de pubs. L'ensemble accompagné des forces de l'ordre, pas encore sponsorisé, d'hôtes et d'hôtesses qui lançaient des cadeaux pleins de pubs à la foule avide. Une fois la parade finie, les familles sont reparties, les jeunes et d'autres sont restés. Les débits de boissons éphémères ont fait le plein, servant de la bière en quantité à des personnes qui visiblement n'en avaient plus du tout besoin. Alors s'est enclenché le balai des déchirés, traînant en ville à la recherche de... va savoir, et surtout ne pas essayer de se mettre à la place de ces gens-là. Pendant ce temps, les services de Le Mans Métropole nettoyaient les rues, des tonnes de déchets laissés par la foule pour que le lendemain matin, on ait l'impression que rien ne s'était passé, ou que si ça s'était passé, ça s'était vraiment bien passé. Une très très bonne soirée, puisque le pognon a largement changé de poche vers les commerçants de la ville. Un critère qui n'est en aucun cas compatible avec une société écologiste. Être là où tout le monde doit être est épanouissant. La fête peut-elle avoir un caractère obligatoire ? Cette semaine, c'était l'épreuve de philo pour les bacheliers. Du coup, on s'est demandé si on pouvait pas se poser des petites questions sur cette parade des pilotes. Le reste des week-ends, les pilotes, vu le vendredi, ont fait des tours de circuit devant des dizaines de milliers de spectateurs venus du monde entier pour voir des pilotes faire des tours de circuit. Pendant 24 heures. Et ils ont été servis puisque le vainqueur a fait 380 fois le tour du circuit, soit 380 fois 13,5 km, c'est-à-dire 5177 km. Les chiffres, c'est bien pour les amoureux des records, ceux qui accumulent du profit et les comptables. Si vous ne faites pas partie de l'une de ces catégories, forcément ça vous parle moins. Pour le reste de la population, donc, pendant ce temps-là, des spectateurs aisés se déplaçaient en avion, validant sans complexe des études montrant que les riches polluent beaucoup plus que les pauvres. Dès 16h le dimanche, les spectateurs ont commencé à rentrer chez eux, laissant pour certains derrière eux toiles de tente, duvet pliable, cadavres de bière, cadavres de vin et autres, puisque même les moins aisés peuvent avoir une attitude de pollueur. Un très très bon week-end, puisque le pognon est passé des poches des spectateurs à celle de l'ACO et de ses partenaires. On l'a déjà dit, ce genre d'indicateur de réussite n'est en aucun cas compatible avec le respect des écosystèmes qui nous servent de support. Il va peut-être falloir se demander si ce genre d'activité a toujours sa place dans un monde qui va vers une déchéance annoncée. On aurait pu vous parler des nouvelles de la fin du monde. On vient d'en parler un petit peu quand même. Dimanche 12 juin, une tempête de grêle consécutive à plusieurs jours de grosse chaleur a paralysé la ville de Mexico. 50 degrés dans la vallée de la mort, samedi 11 juin. On vous avait dit, en Californie du Sud, ils s'attendent à une canicule. Elle est arrivée. Des 45-46 dans le sud-ouest des États-Unis, avec le corollaire des incendies. Devinez ce que les incendies de forêt rejettent dans l'atmosphère. Du bois qui brûle, ça fait du CO2. Le CO2 qui est en plus emmagasiné par les arbres. Donc le CO2 du brûlage, les différentes poussières, plus le CO2 emmagasiné qui est rejeté dans l'atmosphère, puisque c'est un gaz à effet de serre, ça accentue le dérèglement climatique. Donc le dérèglement climatique qui s'auto-alimente, ils ont même plus besoin des êtres humains. Fallait pas commencer. La France est sous le coup d'une canicule, donc pas de température sous les 25 degrés la nuit, proche de 40 le jour. Mi-juin. Une canicule qui vient de la péninsule ibérique où les Espagnols et les Portugais crèvent de chaud depuis plusieurs jours aussi. Va peut-être falloir arrêter les conneries là. On a appris que 500 millions d'euros allaient être développés pour la renaturation des villes. Renaturer, qui peut bien parler comme ça ? Laisser la nature agir, c'est pas renaturer. À quoi peut bien servir ce plan ? Passer son temps à emplâtrer des jambes de bois, ça devrait commencer à se voir, non ? Pourquoi ? Le réalisme qui a le seul micro et caméra ouvert et celui de l'économie capitaliste. Dans les médias, entre deux appels à produire plus pour consommer plus, pour faire plus de croissance, on a de temps en temps une chronique environnement. Entre deux reportages sur la réindustrialisation, des ministres appellent parfois à modérer l'envoi de mails ou de SMS. La philosophie libérale, basée sur la seule écoute de nos pulsions, est incompatible avec l'écologie, dont les valeurs impliquent la modération et la sobriété matérielle. Tout le monde le sait. Tout le monde. Mais la propagande majoritaire continue de nous faire croire que l'important en ce moment, c'est de préparer les vacances d'été. Alors à propos de la fin du monde, respirer, ça devient compliqué, puisque l'ozone, cet oxygène un petit peu trop oxydant, s'accumule partout. Comme les poussières fines d'ailleurs. J'attends avec impatience les recommandations des ministres concernés, dont on ne peut pas citer le nom, pour ne pas faire de publicité à un parti productiviste prônant des solutions techniques à des problèmes créés par la technique. Les humains sensés assurent qu'il faudrait réduire nos activités de production, limiter nos déplacements, en clair, tout arrêter et réfléchir à ce qui est utile. Ces humains sensés sont alors qualifiés d'extrémistes par les partisans du « on continue ?» Il y a du pognon à se faire. À propos de sécheresse, ce sont dorénavant 126 arrêtés préfectoraux pour 40 départements. 40 départements touchés par la sécheresse, avec une quinzaine de bassins versants en crise. L'été n'est même pas commencé. On pourrait peut-être commencer à agir, simplement en réduisant notre consommation au niveau agricole et industriel. Ou alors on a peut-être besoin encore d'une mission flash pour comprendre les causes du désastre. Mais finalement, on a préféré vous parler de l'ordre et surtout de ses forces. De l'ordre. La semaine dernière encore, un cas de violence policière a fait l'actualité. Des policiers à vélo vident leur chargeur sur un véhicule rempli de 4 personnes, tuant une passagère et blessant le chauffeur. Les tirs sont consécutifs à un refus d'obtempérer du conducteur. Les policiers assurent avoir été en légitime défense. Les passagers survivants et d'autres témoins affirment que personne n'était en danger. L'utilisation des armes à feu par la police n'est pas récente. Cependant, depuis la loi du 28 février 2017, qui a été votée par des soi-disant socialistes, oui, des gens du Parti Socialiste, relative, donc cette loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, elle permet aux forces de l'ordre de voir leurs droits à tirer étendus. Notamment par un article qui permet de modifier l'article 435 alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure, et qui indique que l'usage des armes doit se faire en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Alors, il y a plusieurs cas. Premier, lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui. Quand on dit « eux » ou « leur », c'est à propos des forces de l'ordre. Deuxièmement, lorsqu'après 2 sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées. Troisièmement, lorsque immédiatement après 2 sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter autrement que par l'usage des armes des personnes qui cherchent à s'échapper à leur garde ou à leur investigation et qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Alors ça, qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite, il sert beaucoup. Quatrièmement, lorsqu'ils ne peuvent, ce sont toujours les forces de l'ordre qui sont définies par « ils »,« leur », voilà. Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs ne tempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Et cinquièmement, dans le but exclusif d'empêcher la réitération dans un temps rapproché d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. C'est l'alinéa 4 qui est le plus souvent utilisé par les forces de police quand elles tuent quelqu'un. La deuxième partie, quand il est dit dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie et à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Tout ça, ça sert à justifier l'usage de l'arme pour légitime défense. Alors il convient de faire de la victime un assassin en puissance, et ça marche. Le plus souvent, l'IGPN va dans le sens des tireurs, mais pas toujours. En avril dernier, un policier qui a tiré au fusil d'assaut sur un véhicule est mis en examen pour violence volontaire. Il est interdit d'entrer en contact avec le public pour 6 mois, mais il reste policier. Cette semaine, le journal Libération et le journal en ligne Mediapart, qui ont eu accès au dossier d'expertise balistique, affirme que les balles mortelles ont touché les occupants du véhicule sur le côté et dans le dos, mettant à mal la version du policier tireur, disant « j'ai été obligé d'éviter la voiture qui me fonçait dessus ». L'association Flagrant Déni, dont on peut retrouver les documents et analyses sur flagrant au pluriel -déni.fr, flagrant-déni.fr, a publié en mai 2022 une note sur l'opacité du traitement des violences policières. Les statistiques officielles doivent bien exister quelque part, mais les chiffres ne sont jamais rendus publics. Cependant, à travers les rapports de l'IGPN, le journal Le Monde du 9 mai 2022 constate une hausse constante des tirs policiers, notamment depuis la loi de 2017, celle déjà citée. Et d'ailleurs, à propos de cette loi, ça commence dès l'apparition de la loi en ville, mais aussi à la campagne. C'est en mai 2017 qu'a lieu le seul homicide de paysan attribué à des gendarmes sur la personne de Jérôme Laronze. 5 tirs, 3 mortels, dont 2 dans le dos. Devinez ce qui est invoqué par le militaire ? La légitime défense. Le paysan lui aurait foncé dessus. Les constatations et les angles de tir indiqueraient une autre histoire. De plus, le média en ligne Basta, que l'on retrouve sur le site bastamag.net, a recensé et traité les cas de 746 morts du fait de l'action de la police entre 1977 et 2020.
Le profil type de la personne assassinée par la police française entre 1973 et 2020, selon l'étude menée par Bastamag, est un homme de moins de 26 ans. Au nom de consonance africaine ou maghrébine, qui habite un quartier populaire en banlieue de Paris, Lyon ou Marseille, et qui n'a pour la majorité des cas jamais commis aucun délit, ou seulement des délits mineurs, de type infraction au code de la route, ou vol.
Un son tiré du podcast L'Actu des Oubliés, que je vous conseille, L'Actu des Oubliés. Là, c'était le numéro 17, intitulé « Abolir la police ». L'Observatoire international des prisons, dans une note de février 2021, qui s'intitule « Qui sont les personnes incarcérées ?», eh bien, montre également que les personnes en prison sont en majorité des hommes pauvres ayant des troubles psychologiques. Les victimes des tirs et autres techniques de la police ont donc une typologie qui interroge sur le long terme. Et la facilitation de l'usage des armes à feu par des lois récentes n'est pas faite pour réduire les violences policières. Des violences qui s'exercent aussi par bien d'autres moyens que l'homicide par arme à feu. Quand un policier filme des lycéens mis à genoux, les mains sur la tête et fanfaronne en affirmant « voilà une classe qui se tient sage », l'humiliation tient lieu de techniques policières. Aussi, devant le Stade de France à Saint-Denis fin mai, on a pu voir des policiers arroser des gens à travers des grilles, à la lacrymo, alors que les gens en question n'avaient rien d'hostile et n'étaient pas du tout susceptibles de mettre en danger les policiers, contrevenant alors aux dispositions de la loi comme l'article L211 du Code de sécurité intérieure. Pourquoi autant parler de loi ? Eh bien parce que la police n'est pas censée agir par hasard. Elle est encadrée par un code de procédure, par des textes qui l'obligent à se mettre au service de la population. Ce n'est pas évident quand on connaît les refus de porter plainte, courant notamment dans les affaires liées à la police. Par exemple, il faut dire que rapidement dans l'histoire, ce qui deviendra la police et la gendarmerie, eh bien, ce sont des groupes qui sont chargés de s'occuper des populations marginales, souvent en ville. Et ils sont chargés par exemple de s'occuper des mendiants, des étrangers, dans le sens de ceux qui ne sont pas de la ville. Le contrôle social est donc une des attributions des forces de l'ordre. Et déjà, les affaires concernant les troupes chargées de lutter contre le crime, pour reprendre une expression plus contemporaine, sont légion. De même, les forces de l'ordre sont utilisées à des fins politiques pour montrer la puissance des uns ou la défaite des autres. À lire sur le sujet, Arlette Le Bigre, La police, virgule, une histoire sous influence, paru chez Gallimard en 1993, il aurait fallu faire une réédition. Le contrôle social atteint des sommets lors des dictatures. On peut par exemple citer la période napoléonienne, forte de mouchards et autres indicateurs, ou Vichy, où il n'y a jamais eu autant de dénonciations auprès de la police, qui parfois s'empressait d'aller vérifier si elles étaient exactes. Le système des indics, des cousins et compagnie reste d'actualité. Tout militant attrapé dans ses activités et mis en garde à vue connaît les petites phrases tendant à lui promettre une certaine clémence en échange d'infos. Et quand les militants ne vont pas assez loin, les agents provocateurs payés par la police ou policiers eux-mêmes, parfois infiltrés de longue date dans les groupes revendicatifs, se mettent en action permettant la répression adéquate qui rassure le bourgeois et démantèle les oppositions. Des exemples nombreux et internationaux ont permis de faire de groupes sans tâche de dangereux terroristes. Les forces de l'ordre servent bien plus les pouvoirs en place que la population. Depuis toujours, la police a pour objet de limiter les revendications des classes populaires, considérées aussi comme des classes sociales dangereuses pour le maintien de la hiérarchie elle-même sociale, dont la tête fut la noblesse, puis après la révolution, les révolutions du 19e siècle, la bourgeoisie. À lire bien sûr sur le sujet, Michel Foucault, Surveiller et punir, qui n'a pas pris une ride, je ne parle pas de Michel Foucault, mais de son bouquin. Michel Foucault hiérarchise les fautes et les illégalismes, et donc l'oppression de certaines populations, alors que d'autres peuvent contrevenir beaucoup plus facilement à la loi et se défendre le cas échéant. Nous avons actuellement plein d'exemples avec la répression contre les gilets jaunes. Pendant la crise de la Covid-19, les contrôles des autorisations de circulation et du port de masque entraînent de la condamnation à de la prison pour des contrevenants, mais seulement dans des quartiers populaires. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de contrôle dans ces lieux. Dans les quartiers bourgeois, il y a aussi des gens qui ne portaient ni le masque et ne sortaient pas au bon moment. Mais dans les quartiers bourgeois, étant bien moins fliqués, forcément, vous avez beaucoup moins de chances de tomber sur un contrevenant. Conscient de cette place dans la hiérarchie sociale, les forces de l'ordre, qui donc défendent plus le pouvoir qu'autre chose, ne peuvent pas être désavouées facilement dans leurs tâches par les pouvoirs qu'elles protègent. Aussi, les abus de pouvoir ne sont pas loin. Et ce sont les groupes les plus faibles qui en pâtissent. Ajoutez à cela le positionnement politique des forces de l'ordre, souvent très à droite, et voilà comment les victimes des violences policières et gendarmesques sont souvent de jeunes hommes issus de l'immigration, comme on dit, et des prolos de toute provenance. Le schéma se retrouve au niveau international avec quelques nuances. Par exemple, le fait que les polices aux États-Unis ont chassé, oui, il n'y a pas d'autre mot, les esclaves noirs en fuite sur tout le territoire jusqu'à l'abolition de l'esclavage il y a un siècle et demi seulement, modifie un peu les données et la place que prend la police quand elle se met à réprimer le crime aux États-Unis, souvent elle le voit noire. Alors, que faire, comme disait l'autre? Des militants réclament une action radicale en prenant le problème à la racine. Ils proposent tout simplement l'abolition de la police. Pourquoi? Parce que la police sert à tout ce que nous avons décrit. Parce qu'elle ne permet pas de lutter efficacement contre le crime. Parce que les sommes astronomiques consacrées à la police, à la justice et aux prisons seraient bien mieux employées pour mettre en œuvre les fameuses valeurs républicaines, par exemple liberté, égalité, fraternité. Parce que la réforme des forces de l'ordre ne sert que les forces de l'ordre. Par exemple, la dotation des polices en armes non létales amènent de fait, puisque ce sont toujours des armes, mais comme elles ne sont pas létales, à les sortir sans discernement. Alors que de fait, ce sont des armes qui parfois tuent. Les caméras piétons ont été également normalement une réforme qui permettait de modifier le rapport de la police aux populations, mais bizarrement, quand il y a des affaires de violence policière, les images ont disparu. Parce que également, pourquoi demander l'abolition de la police? Parce que la police et ses syndicats agissent comme un lobby pour générer une société toujours plus violente, où règne forcément la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ben c'est la loi du détenteur de la fumeuse violence légitime. Et surtout, parce que les exemples de sociétés sans police, comme au Chiapas, sont des exemples de sociétés où la violence économique n'a plus sa place. Ou des sociétés où les habitants ne font pas que vivre l'un à côté de l'autre, mais tissent des liens qui permettent de gérer une partie des torts causés à autrui sans intervention extérieure. Alors, puisque la révolution de ce monde passe forcément par notre évolution personnelle, si tu vois quelque chose, fais quelque chose. 12 choses à faire plutôt que d'appeler la police. C'est le titre d'un texte qu'on retrouve sur le site abolirlapolice.org, un site dédié au livre « Abolir la police », écho des États-Unis, qui a été rédigé par le collectif Matsuda et qui est paru en septembre 2021, un recueil de textes venant des États-Unis avec bien sûr des annotations, des explications par le collectif Matsuda. Si tu vois quelque chose, fais quelque chose, 12 choses à faire plutôt que d'appeler la police, ça commence comme ça. Appeler la police souvent aggrave la situation, fait courir des risques et provoque de la violence. Chaque fois qu'on demande de l'aide à la police, on l'invite dans son entourage, ce qui met en danger des personnes qui peuvent être là dans des situations à risque. Parfois, les gens pensent qu'appeler la police est la seule manière de régler des problèmes. Mais l'on peut construire des réseaux d'entraide et de confiance qui permettent de mieux prendre en main des conflits nous-mêmes et d'aller vers des formes de justice transformatrice tout en gardant la police à distance. Alors la justice transformatrice, eh bien ils nous aident, les traducteurs du texte nous aident à comprendre en disant « La justice transformatrice vise à arrêter de régler les conflits en passant par la punition, exclusion, châtiment, humiliation, etc. et défend une résolution des problèmes par le dialogue entre auteurs, victimes, proches. La compréhension mutuelle et la responsabilisation du milieu dans lequel s'est produit le tort. » Donc 12 chose à faire plutôt que d'appeler la police, après ce préambule sur le fait d'appeler la police et de ce que ça peut générer comme conséquence, number one, ne te sens pas obligé de défendre la propriété, surtout la propriété privée des grandes entreprises. Avant d'accuser quelqu'un de contacter la police, demande-toi si quelqu'un est violenté ou mis en danger par le vol ou dommage d'une propriété. Si la réponse est non, alors laisse faire. Deuxièmement, si quelque chose qui t'appartient est volé et que tu as besoin de faire enregistrer l'infraction afin de toucher l'assurance ou pour toute autre raison, vois si tu peux aller au commissariat de police plutôt que de faire venir les flics au sein de ton entourage. Sans t'en rendre compte, tu pourrais faire courir un risque à quelqu'un de ton voisinage. 3. Si tu rencontres quelqu'un présentant un comportement qui paraît étrange à tes yeux, n'en conclue pas qu'il ou elle est sous l'emprise de produits stupéfiants en plein sur la voie publique. Une lésion cérébrale ou une crise liée à une maladie peuvent provoquer des symptômes similaires. Demande-lui si ça va, si il ou elle est dans un état de santé particulier et si il ou elle a besoin d'aide avant d'appeler la police. Quatrièmement, gardez une liste de numéros de ressources communautaires comme une ligne d'écoute en cas de situation compliquée, tentative de suicide, mise en danger d'autrui, etc. Quand la police est contactée pour gérer des situations comme celle-là, les personnes qui ont des troubles mentaux ont 16 fois plus de risques d'être tuées par les flics que les autres. Voilà des chiffres qui viennent des États-Unis, mais il apparaît qu'en France, même si ces chiffres ne sont pas aussi importants, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a 16 fois plus de chances de se faire shooter par la police, eh bien il y a quand même des cas de personnes, notamment Serge Partouche par exemple, un autiste tué par 3 policiers lors d'un plaquage ventral en septembre 2011. Il paraît qu'il a rien compris de ce qui lui est arrivé. Cinquième chose à faire plutôt que d'appeler la police. Si tu vois une personne arrêtée sur la chaussée à cause d'un problème de voiture, tu peux t'arrêter et lui demander si elle a besoin d'aide ou si tu peux appeler une dépanneuse. Si la police s'en mêle, elle peut mettre des amendes abusives, cibler celles et ceux qui n'ont pas de papier. Ou pire encore, il est vrai que des contrôles routiers, là c'est moi qui reprends, comme par exemple celui de Cédric Chouviat en janvier 2020, ont engendré des choses qui n'étaient pas, en l'occurrence, la mort du Cédric Chouviat en question. Donc un simple contrôle de police peut largement dégénérer, et comme la police a le droit de tirer si vous n'obtempérez pas. Sixièmement, réfléchis à deux fois avant d'appeler la police lorsqu'une personne te semble suspecte. Est-ce sa race, son genre, son ethnicité, sa classe ou son mode d'habitat qui influence ton choix ? Des coups de fil comme ça peuvent mettre en jeu la vie de beaucoup de gens. Septièmement, encourager les professeurs, les collègues et les organisateurs tristes d'événements à ne pas convier la police dans les classes, dans les lieux de travail et dans les espaces publics. À la place, œuvrer pour une culture de l'attention des uns et des autres, sans mettre par inadvertance qui que ce soit en danger. Si on fait partie d'un groupe qui organise un rassemblement ou une manifestation, ne pas demander l'autorisation à la police et éviter toute forme de coopération avec elle. Huitièmement, si un voisin fait la fête et que le bruit te gêne, va voir, va lui parler. Apprendre à connaître tes voisins lors d'une fête de quartier est un bon moyen de rendre moins embarrassant le fait de leur demander de faire moins de bruit ou bien de trouver un autre voisin qui veut bien le faire à ta place, plutôt que d'appeler la police. Neuvièmement, si tu vois quelqu'un pisser en public, regarde ailleurs. Souviens-toi que beaucoup de sans-abri n'ont pas d'accès facile à des toilettes. Dixièmement, organiser et participer à des ateliers de désescalade ou de résolution de conflits, de secourisme et d'autodéfense dans ton quartier, dans ton école, à ton travail ou au sein de ton comité de quartier. Onzièmement, le street art, c'est beau. Ne signale pas des graffitis ou des artistes de rue. Si tu vois une œuvre qui contient des propos fascistes ou haineux, peins par-dessus, toi-même ou avec des amis. Et douzièmement, souviens-toi que la police peut exacerber des situations de violence domestique. Tu peux soutenir des amis et des voisins victimes de violence en les accueillant, en les conduisant en lieu sûr ou en prenant soin de leurs enfants. Utilise des ressources communautaires comme des lieux d'entraide et des lignes d'écoute. Et le texte se termine par cette conclusion en forme de slogan : des communautés fortes rendent la police obsolète. Voilà l'idée. Eh bien, pour aller un petit peu plus loin, le collectif Désarmons-les, vous trouvez ça sur les internets, le collectif Urgence, notre police assassine, idem, l'aventure abolitionniste sur le site abolirlapolice.org, un autre livre, La légitime défense, homicide sécuritaire, crimes racistes et violences policières, par Vanessa Codaccioni, une universitaire de Paris 8 qui travaille sur le sujet de la légitime défense, les livres de Fabien Jobard sur la police, bien sûr, et les podcasts de l'actu des oubliés qui nous parle de la police, mais pas que. Idem, vous pouvez également trouver le livre « Défaire la police » chez les éditions Divergence qui date de septembre 2021. Pourquoi essayer de faire une société sans police ? Eh bien, peut-être que ça nous permettrait, nous, d'avoir une société moins violente. On n'a plus le temps, alors on aurait pu vous donner des informations sur le fait qu'il y a autour de chez nous ou un petit peu plus loin des manifestations diverses et variées, des luttes qui ont lieu pour essayer de faire en sorte que la fin du monde n'arrive pas trop vite. Et puis, il paraît qu'il y a des élections incessamment sous peu. On aurait pu vous parler de tout ça, mais comme on n'a pas le temps, on vous dit tout simplement, allez, au revoir.